L'assassinat du courrier de Lyon, chapitre 6. Un coup de théâtre. Madame Lezurc. Le registre falsifié. Incroyables et merveilleuses. Les révélations de la fille Brébant. Le verdict. Il ne restait plus que quelques témoins à charge à entendre. Humbert, le garçon d'écurie à qui Courriol avait amené 4 chevaux le lendemain du crime, les 2 postillons qui avaient conduit celui-ci de Bondy à Château-Thierry, le dragon Lamprey qui avait ramassé le sabre sanglant et auquel un petit paysan avait remis le fourreau et le baudrier, et Madeleine Brébant qui avait été remise en liberté ainsi que le lui avait promis Daubenton. Le président lui demanda si elle reconnaissait les accusés. Elle répondit qu'elle les reconnaissait tous, sauf Lezurc. Et elle regagna sa place, sans oser tourner de nouveau les yeux vers le banc des accusés, où elle savait rencontrer son amant. Maintenant, la grande partie allait se jouer entre l'accusation et la défense. Après avoir entendu quelques témoins à décharge cités par Courriol, et dont les vagues déclarations ne parurent produire aucune impression sur le jury, le président appela tour à tour les 7 témoins qu'avait fait citer Lezurc. Le premier fut le citoyen Legrand, le bijoutier du palais Égalité. Celui-ci, sur la foi du serment, déclara qu'à la date du 8 Floréal, en présence du citoyen Aldenoff, également cité, Lezurc était arrivé à son magasin vers 9h30 du matin et qu'il ne s'était guère quitté que vers 1h de l'après-midi. Cette déclaration, faite avec une grande franchise, produisit sur la salle entière une impression sensationnelle. Quant à Lezurc, il rayonnait et, dans le fond de la salle, Madame Lezurc se sentit renaître à l'espérance. Mais le président Goyer, d'un ton nettement hostile, faisait observer aux témoins. « Comment vous est-il possible, après un si long temps écoulé, de pouvoir affirmer aussi catégoriquement que c'est bien le 8 Floréal que vous avez vu Lezurc ? C'est là une visite qui n'a point dû faire époque dans votre existence, puisque vous le voyez journellement. » Le bijoutier Legrand, avec la même sérénité, reprenait. « Cependant, je l'affirme. Et, si je puis ainsi l'affirmer, c'est qu'un fait fixe invariablement mes souvenirs. Le jour même où Lezurc se trouvait chez moi, j'ai demandé au citoyen Aldenoff, bijoutier, une fourniture de boucles d'oreilles et lui ai vendu une cuillère dite poche. Or, c'est bien le 8 Floréal qu'a eu lieu cette double opération, ainsi d'ailleurs que cela est constaté sur mon livre de commerce. « Où est ce livre ?» réclamait le président. « Entre les mains du défenseur de Lezurc. Veuillez me le présenter. » Maître Guigné, avocat, remit aussitôt au citoyen Goyer le document que celui-ci réclamait. Au premier coup d'œil jeté sur la colonne indiquée, le président eut un mouvement de surprise et, regardant Legrand d'un air indigné, il s'écria. « On veut surprendre la justice. Il y a là une charge grossière. Il y avait un 9. On en a fait un 8. » Le défenseur de Lezurc se précipitait aussitôt, regardait à son tour et constatait que, sous le chiffre 8 indiqué comme preuve, un 9 avait été distinctement formé, dont la queue dépassait le chiffre substitué. Maître Guigné, Legrand et Lezurc demeurèrent pétrifiés d'étonnement, car tous 3 étaient sûrs d'avoir vu la veille encore le chiffre 8 sur le livre. Par qui et à quel moment cette surcharge avait-elle été opérée? D'une voix tonnante, le président demandait à Legrand s'il persistait dans son mensonge. Le malheureux, littéralement effondré, ne put que balbutier des paroles inintelligibles. Aussitôt, L'accusateur public se levait et requérait l'arrestation de Legrand sous l'inculpation de faux et de faux témoignages. Et Legrand fut aussitôt mis en état d'arrestation. Ce fut en vain que Maître Guigné, qui s'était ressaisi, fit valoir que, si la date avait été surchargée à dessein, il était vraiment ridicule de laisser le premier chiffre visible. Si on avait voulu commettre une fraude, on eût gratté la queue du neuf, on eût habilement profité du zéro restant pour y souder l'autre zéro formant le 8. D'ailleurs, pourquoi Legrand se serait-il exposé à affronter la justice au sujet de cette surcharge? Il n'était pas besoin de produire le livre, et s'il voulait sauver le Surc par un mensonge, il n'avait qu'à affirmer avec insistance qu'il l'avait vu chez lui à telle heure dans la journée du 8. Et comme le président s'adressait à Le Surc et lui demandait ce qu'il avait à opposer à cette nouvelle preuve de culpabilité, l'accusé, qui lui aussi avait retrouvé son calme, répondit « Legrand n'est pas le seul témoin qui puisse prouver ma présence à Paris le 8 Floréal. » Et, avec un accent de loyauté indiscutable, il déclara qu'il renonçait à ce témoignage et demanda au juré de le déclarer comme nul et non avenu. Mais cet incident, aussi inattendu que regrettable, avait détruit la bonne impression que la déposition de Legrand avait faite tout d'abord sur les jurés. Ceux-ci n'allaient plus écouter que d'une oreille distraite les autres témoignages favorables. Le citoyen Aldenoff eut beau affirmer, jurer, qu'il se rappelait fort bien avoir vu Le Surc chez Legrand, le 8 Floréal, Hilaire Ledru certifié avoir dîné le 8 Floréal chez Le Surc, fait un tour de promenade avec Guénaud sur les boulevards, et avoir soupé chez Le Surc avec Baudard, un de leurs amis communs. Baudard lui-même eut beau attester sa présence chez Le Surc le 8 Floréal et confirmer la déposition du témoin précédent. Le cousin de l'accusé déclarait sa présence à presque toutes les heures du jour, rue Montorgueil le 8 Floréal. Sa femme dire de même. Cinq ouvriers qui avaient collé du papier ce jour-là au nouveau domicile de Le Surc et reçu de lui une gratification garantir ainsi l'authenticité de l'alibi, Goyer leur imposa brutalement silence. Et, avec une révoltante partialité, il s'écria « Comment tous ces témoins, après un intervalle de plusieurs mois, peuvent-ils se souvenir de ce qu'ils ont fait le 8 Floréal ? Quelle est la personne qui pourrait rendre compte, comme vous, de l'emploi de son temps après un laps de temps aussi long ? La précision, l'ordre, la netteté de vos déclarations ne dépose-t-elle pas contre vous ? Ne reconnaît-on pas en cela une collusion évidente ? Et lorsque la citoyenne Clotilde Eugénie d'Argence, qu'on eût d'ailleurs mieux fait de laisser chez elle, voulut attester que, depuis 10 mois, elle voyait Le Surc une fois par jour, soit chez elle, soit chez la citoyenne Thériault, femme d'un médecin, et que, pas un jour, il n'y avait de lacune dans ses visites, le président s'écria « N'est-ce point une leçon apprise ou répétée machinalement ?» Et, cherchant visiblement à l'embarrasser, il lui dit « Connaissez-vous bien le nouveau calendrier républicain ?»« Oui. Eh bien, quel mois précède et quel mois suit celui de Floréal ? Combien ces mois ont-ils de jours ?» Intimidé, bouleversé, la citoyenne d'Argence commença par s'embrouiller et, sans même lui donner le temps de s'y retrouver, le citoyen Goyer lui disait « Cela suffit, retirez-vous, les citoyens jurés apprécieront. » Ainsi, les espérances de Le Surc, de sa femme et de ses amis venaient de s'évanouir lamentablement. Et quand le malheureux accusé se retrouva seul dans sa cellule, il eut une véritable crise de désespoir. Il le sentait, il était perdu. Le soir même, la nouvelle de ces graves incidents d'audience s'était répandue dans Paris, attirant l'attention du public sur cette cause qui l'avait laissé indifférent. Or, les snobs de cette époque, c'est-à-dire les incroyables, que l'on commençait à voir étaler leurs élégances exagérées, leurs mines ridicules et leurs singeries prétentieuses sous les galeries du palais Égalité, avaient envahi la salle, flanqués de leurs compagnes habituelles, dites les merveilleuses, revêtues de costumes dont l'originalité consistait à découvrir le plus possible tout ce que la morale la plus élémentaire commande de cacher. On prétend même que la belle Madame Tallien, surnommée Notre-Dame de Thermidor, pour avoir de sa prison envoyé à Tallien un célèbre billet qui ne fut pas sans contribuer au renversement de Robespierre, assistait à cette audience accompagnée de son inséparable amie, la non moins belle citoyenne Hamelin. L'audience commença par une sorte de levée de rideau constituée par l'audition des témoins à décharge de Bernard et de Bruère. Après quoi, Legrand, sur l'ordre du président, fut introduit non plus comme témoin entre deux gendarmes, mais comme accusé. Le malheureux était littéralement déprimé. « Legrand, lui dit le président, depuis l'assignation qui vous a été donnée à la requête de Lesurc, n'avez-vous vu personne qui a pu vous dicter ou vous inspirer votre déposition ?»« Non, citoyen, répliquait Legrand d'une voix tremblante. J'ai seulement, avant l'assignation, reçu la visite du défenseur de Lesurc, qui, ayant vu mon livre, m'a dit que je pouvais déposer, d'après le renseignement du 8, que j'avais vu Lesurc ce jour-là. Voyons, Legrand, persistez-vous dans votre précédente déclaration ? Très embarrassé, le témoin gardait le silence. On sentait qu'un véritable drame se jouait dans sa conscience et ses intérêts. « Allons en parler !» invitait le citoyen Goyer. D'une voix hésitante et voilée, la tête baissée, Legrand reprenait. « Je retire ma précédente déposition. Elle n'était basée que sur la fausse date de mon registre, dont je n'ai appris la falsification qu'hier, à l'audience. Ce registre est toujours sur mon comptoir, et j'affirme que ni ma femme, ni moi n'avons fait des surcharges. Si j'avais su tout cela, je ne me serais pas avisé de déposer comme je l'ai fait. J'ignore absolument et ne puis deviner par quelles circonstances la surcharge existe, mais je jure que je n'ai pas commis de faux. Ce n'est pas moi qui ai fait la surcharge. « Et vous, Lesurc ? » déclarait le président. « Avez-vous quelques observations à faire au sujet de cette surcharge ?» Lesurc regarda de nouveau avec attention le registre qu'un huissier était venu lui poser sous les yeux. Puis, affreusement pâle, prêt à défaillir, il fit. « Je demande que les citoyens jurés considèrent comme non avenues les dépositions basées sur cette fausse date. » Et il s'écroula sur son banc, comme assommé par ce coup de massue dont il n'allait pas se relever. Son ami Guénaud allait avoir plus de chance. En effet, l'employé du bureau central de police, le sieur Clément, s'en vint affirmer que Guénaud avait bien passé à Paris la nuit du 8 au 9 Floréal. Et cette fois, le président n'osa point discuter la déposition de cet agent. Sans doute ne voulait-il pas, en diminuant un de ses représentants, discréditer la justice dont il était lui-même le mandataire. Enfin, après le défilé des experts, dont les dépositions furent sans grand intérêt, l'audience fut suspendue à 3h30 et elle ne fut reprise qu'à 6h. Le public, qui s'était répandu dans les couloirs du palais de justice, se livrait aux commentaires les plus animés. Tandis que Madame Lesurc, qui était restée dans la salle avec ses amis, cherchait à dominer son indicible angoisse, les incroyables et les merveilleuses, les bourgeois, les avocats, les journalistes échangeaient leurs impressions. Mais c'était Lesurc qui accaparait toute leur attention. L'immense majorité optait pour sa culpabilité. Seuls quelques rares assistants émettaient un doute, sans toutefois assurer leur conviction en son innocence. L'un d'entre eux, cependant, se montrait plus affirmatif. C'était un rédacteur du Messager du Soir qui déclarait à haute voix, et non sans un certain courage, car il en fallait à cette époque une forte dose pour oser s'attaquer ouvertement au président du tribunal de la Seine. J'avoue que, loin d'avoir été convaincu par l'assurance des témoins qui ont déclaré reconnaître le Zurk pour être le même qu'ils avaient aperçu une seule fois, il y avait 3 mois, j'ai vu avec peine que le citoyen Goyer, qui se laisse quelquefois entraîner par la haine qu'il a si justement vouée au vrai coupable, cherchait, par un plaidoyer contradictoire, à détruire les faits qu'aurait pu produire sur les jurés la déclaration de quelques ouvriers qui affirmaient avoir vu, le jour même de l'assassinat, le Zurk chez lui. Mais ce n'était qu'une opinion isolée qui fut bientôt couverte par les protestations des imbéciles qui l'entouraient.
« C'est incroyable, ma parole d'honneur !»
L'audience fut reprise à 6 heures et la parole fut donnée à l'accusateur public. Après avoir conclu à la condamnation de tous, il s'éleva tout particulièrement contre les procédés employés par le Zurk. Il le présenta, soudoyant les témoins, à l'aide des ressources que lui permettait sa fortune, obtenant de Legrand une surcharge qui devait venir en aide à un faux témoignage, et mettant tout en œuvre pour égarer la justice par des dépositions mensongères. Il ajouta qu'il était évident que cet accusé n'était pas seulement un voleur et un assassin, mais aussi un faussaire, un suborneur de témoins, et qui plus est, un homme sans conduite et fort dépensier. Les défenseurs prirent ensuite la parole. L'avocat qui défendait Courriol ne fut pas très brillant. Il avait pour excuse de défendre dans une très mauvaise cause, et sa péroraison hésitante s'acheva dans un silence défavorable. Maître Guigné lui fut infiniment supérieur. Avec une réelle habileté, il rassembla tous les arguments en faveur de l'Usurc. Il s'efforça de détruire l'impression que cette histoire de surcharge avait causée sur le tribunal, sur les jurés, sur le public. Fort adroitement, il fit valoir qu'il suffisait de jeter les yeux sur le registre de Legrand et de se convaincre que le chiffre primitif existait encore et qu'on n'avait rien entrepris pour le faire disparaître ou le faire dissimuler, et qu'il ne pouvait donc y avoir de fraude. Et, en un grand mouvement de sincérité ardente, il adjura les jurés d'avoir pitié de l'Usurc, de sa femme, de ses enfants, et de s'éviter, par un verdict impitoyable, l'ineffaçable remords qu'inspire toujours aux honnêtes gens une irréparable erreur judiciaire. Les autres avocats plaidèrent chacun pour leur client, et l'audience fut levée à 2 heures du matin. Le lendemain, à 10 heures, dès le début de la séance, le président déclarait les débats terminés, et comme l'exigeait alors la loi, il faisait un résumé de l'affaire. Il consista en une charge à fond contre les accusés, et principalement contre le Zurk, envers lequel le citoyen Goyer ne devait pas cesser de montrer l'acharnement le plus excessif. Pendant ce temps, l'Abréban, qui, remis en liberté, assistait à la séance, n'avait pas cessé de contempler avec une compassion sans cesse grandissante la pauvre Madame Le Zurk, qui avait passé toute la nuit à pleurer, et, pâle, immobile, les traits crispés, semblait la statue de la douleur même. Madeleine Brébant était une fille, mais ce n'était pas une mauvaise fille. Les dérèglements de son existence n'avaient pas étouffé les bons sentiments dont elle était douée, et que seule une éducation lamentable avait empêché de se développer. Aussi, Le spectacle de cette malheureuse, si atrocement broyée, lui inspira-t-il un élan auquel elle ne tenta pas de résister. Dès que le jury se fut retiré dans la chambre des délibérations, la maîtresse de Courriolles fit mander au président qu'elle avait une importante révélation à lui faire. Goyer la fit venir aussitôt dans son bureau et d'un ton sec, imposant, il lui disait
« Eh bien, parlez !»
Alors Madeleine Brébant s'écria
« Je ne veux pas me taire plus longtemps.
Sur les 6 accusés présents, un seul est coupable. C'est Courriolles. Les autres sont innocents. Guénaud et Lezurque sont victimes d'une ressemblance. Guénaud avec un nommé Vidal et Lezurque avec un nommé Dubosc. Ce qui fait qu'on a pris Lezurque pour Dubosc, c'est que Dubosc non seulement était presque pareil à lui, mais que le jour du crime, il avait mis une perruque blonde, tout à fait de la couleur des cheveux de Lezurque. »
Le président Goyer, toujours intransigeant, déclarait
« Je n'ai pas à tenir compte de ce témoignage in extremis d'une fille qui ne doit qu'à une indulgence excessive de ne pas figurer aujourd'hui sur le banc des accusés, à côté de son amant. »
Et comme l'avocat de Lezurque, présent à cette scène, esquissait un geste de protestation, Goyer décidait, d'un ton tranchant comme le couperet de la guillotine,
« Les débats sont terminés, il n'est plus temps. »
Le jury avait à répondre aux 3 questions que voici. Premièrement, est-il constant qu'il a été commis un homicide sur la personne du citoyen ex-Coffon, courrier de la Malle de Lyon, dans la nuit du 8 au 9 Floréal dernier sur la route de Paris à Melun?
Étienne Courriolles, Joseph Lezurque, Charles Guénaud, David Bernard, sont-ils convaincus d'avoir participé à cette action, de l'avoir fait volontairement, de l'avoir fait sans indispensable nécessité, d'une légitime défense de soi-même ou d'autrui, de l'avoir fait sans provocation violente, de l'avoir fait avec préméditation? Deuxièmement, est-il constant qu'il a été commis un homicide sur la personne du citoyen Audebert, Postillon, dans la nuit du 8 au 9 Floréal dernier sur la route de Paris à Melun? Étienne Courriolles, Joseph Lezurque, Charles Guénaud, David Bernard, sont-ils convaincus d'avoir participé à l'homicide commis, etc., etc. Troisièmement, est-il constant qu'il a été pris de l'argent monnayé, des promesses de mandat, des assignats et autres effets dans la malle du courrier de Lyon? Étienne Courriolles, Joseph Lezurque, Charles Guénaud, David Bernard, sont-ils convaincus d'avoir participé à cette action, de l'avoir fait dans l'intention de voler, de l'avoir fait à force ouverte et avec violence, de l'avoir fait dans la nuit, sur un grand chemin et portant des armes meurtrières? Quatrièmement, Joseph Thomas Richard, Antoine Philibert Bruère, sont-ils convaincus d'avoir reçu gratuitement partie des effets volés, de l'avoir fait, sachant que les 10 effets provenaient d'un vol, de l'avoir fait dans l'intention du crime?
La délibération fut fort longue et dut sans doute être fort laborieuse et animée, car ce fut seulement à 8 heures du soir que le jury fit connaître son verdict. L'audience ayant été reprise, le chef du jury, le citoyen Robillard, déclarait sur son honneur et sa conscience qu'Étienne Courriolles, Joseph Lezurque et David Bernard, convaincus d'avoir volontairement, sans l'indispensable nécessité de légitime défense, etc., etc., participer aux homicides commis sur les personnes d'ex-Coffon, courrier, et d'Audebert, postillon de la Malle de Lyon, dans la nuit du 8 au 9 Floréal précédent, sur la route de Paris à Melun, et d'avoir, à force ouverte et par violence sur un grand chemin, la nuit, étant plusieurs personnes et porteurs d'armes meurtrières, pris de l'argent monnayé,
des promesses de mandat, des assignats et autres effets dans la malle du courrier de Lyon. Qu'au contraire, Charles Guénot n'était point convaincu de ces homicides et de ce vol. Que, de plus, Pierre Richard était convaincu d'avoir reçu gratuitement partie des effets volés, sachant que les 10 effets provenaient du vol, tandis que Bruère n'en était pas convaincu. Dès que le chef du jury eut terminé, le président donnait l'ordre de faire entrer les accusés et rendait l'ordonnance suivante. Le tribunal déclare que Charles Guénot et Antoine Philibert Bruère sont acquittés de l'accusation portée contre eux et ordonne qu'ils soient remis en liberté sur le champ s'ils ne sont détenus pour aucune autre cause. Le tribunal, après avoir entendu le citoyen Desmaisons, substitut, commissaire du pouvoir exécutif, condamne Étienne Couriol, Joseph Lezurque et David Bernard à la peine de mort. Condamne Pierre Thomas Joseph Richard à la peine de 24 années de fer et 6 heures d'exposition, etc., etc. En entendant cet arrêt, Lezurque, qui avait blêmi, leva au ciel des yeux et des mains égarées, puis, redressant la tête, il lança d'une voix vibrante. « Sans doute, le crime dont on m'accuse est horrible et mérite la mort. Mais s'il est affreux d'assassiner sur une grande route, il ne l'est pas moins d'abuser de la loi pour frapper un innocent. Un moment viendra où mon innocence sera reconnue, et c'est alors que mon sang rejaillira sur la tête des jurés qui m'ont condamné avec tant de légèreté et sur le juge qui les a influencés. » Un grand murmure, dominé par un cri déchirant, suivit ces paroles. L'infortunée Madame Lezurque venait de s'évanouir. Imperturbablement, le président continuait. Le tribunal ordonne que les condamnés seront conduits au lieu du supplice avec une chemise rouge, conformément aux articles du Code. Couriol, Lezurque, Bernard et Richard, vous pouvez vous pourvoir contre le dit jugement. L'audience est levée. Gendarmes, emmenez les accusés.